Bonsoir. Cinq ONG de défense aux droits de l'homme s'inquiètent de la circulation depuis le 1er avril dernier des militaires lourdement armés, des chars de combat et des autoblindés dans l'ancienne province du Katanga, notamment dans les villes de Lubumbashi, Kamina, Kolwezi et Kalemi. Le commandant second de la 22e région militaire indique que cette présence militaire est consécutive à la réforme de l'armée et au renforcement des capacités des FRDC. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 13 avril 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat général Jean-Claude Kifoua. Il est commandant de la 2e zone de défense qui regroupe la 21e et la 22e région militaire. Général Kifoua, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Maître Timothée Mbouya, coordonnateur de Justicia HBL, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Lubumbashi. Maître Mbouya, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Avec moi dans ce studio, Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité. Monsieur Kabengele, bonsoir.
Ah, bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Joseph Tengue qui dit ceci. Ces ONG devraient dénoncer la détention illégale d'armes à feu et non la présence des militaires régulièrement reconnus par la nation et son gouvernement. Soit encore, il faudrait dénoncer les abus que ces militaires commettraient. Le contraire n'appelle aucun débat. Kaibi Kire, depuis Kiwanja au nord Kivu, estime qu'il fallait commencer par envoyer tous ces militaires à Beni où on connaît des problèmes d'insécurité chaque jour au lieu de les déployer au Katanga où la situation est plutôt calme. Merci de nous suivre à Lubumbashi dans la province du Katanga sur la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Adieu. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit, à Lubumbashi, 5 ONG de défense des droits de l'homme s'inquiètent de la circulation des chars de combat, autoblindés, des caisses de munitions ainsi que de commandos lourdement armés dans l'ancienne province du Katanga. Ces organisations demandent au gouvernement de la République d'éclairer l'opinion sur cette situation. Elles se sont exprimées notamment dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Défense. En réaction, le commandant de la 22e région militaire parle d'une situation qui cadre avec la réforme des l'armée. Colin Djoumamoussompo nous en dit plus.
Parmi ces ONG, il y a la CDH, la ZADO, le CDH, l'IRDH ainsi que Justicia HBL. Ces ONG affirment que c'est depuis le 1er avril dernier qu'environ 60 chars, des autoblindés et autres armes sophistiquées escortées par des militaires sont aperçus dans les villes de Lubumbashi, Kamina, Kolwezi et Kalemi. Toujours, selon ces ONG, ces armes seraient arrivées à Lubumbashi par voie ferrée. Une partie d'entre elles aurait été entreposée à Kamina, une autre à Kolwezi et une autre encore à Lubumbashi. Pas plus tard que le vendredi dernier, quelques chars de combat et colonnes de militaires lourdement armés ont été aperçus dans la commune Kenya. Justicia HBL estime pour sa part que faire circuler autant d'armes dans une zone non officiellement astreinte aux conflits armés a un impact sur la situation sécuritaire. On écoute Timothée Mbouya, son président.
Il revient à l'armée certainement de s'équiper en armement, mais il revient aussi à la même armée d'expliquer à la population que toutes les manœuvres qui sont faites ne sont pas faites pour la terroriser. Vous savez, notre crainte, c'est la crainte de la population.
Dans un message diffusé ce lundi sur la chaîne nationale ici à Lubumbashi, le commandant de la 22e région militaire appelle la population louchoise à ne pas céder à la panique. Le général Philemon Yav parle plutôt de la réforme de l'armée et du renforcement de ses capacités à pouvoir défendre le territoire national. Lubumbashi, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Merci Colin pour ce reportage. Le porte-parole du gouvernement estime qu'il y a pas assez mouvoir ou à s'inquiéter, d'autant plus qu'il est normal pour un pays d'équiper son armée. Il demande à la population de ne pas céder à la manipulation. On écoute Lambert Mende au micro de Radio Capi.
9 chars auraient été vus importés dans le pays pour les forces armées de la République démocratique du Congo à Lubumbashi. Alors, une armée qui importe du matériel militaire. Quoi de plus banal que une armée puisse s'équiper? On ne peut pas avoir créé une armée pour ne pas l'équiper avec du matériel militaire. Vous ne pouvez pas être fier d'avoir une armée dépourvue de matériel militaire. Et si on importe du matériel qui soit arrivé par cette route de l'Afrique du Sud en passant par la Zambie, Kasumbalesa, Lubumbashi, pourquoi ça doit provoquer de l'émoi? Ça ne peut provoquer de l'émoi que chez ceux qui ne souhaitent pas que la République démocratique du Congo trouve sa pleine capacité à assurer sa défense et sa sécurité. Où est l'intérêt des Congolais? Il ne faut pas se laisser aller comme ça à des manipulations. Il n'y a rien de plus normal pour une armée, pour un gouvernement, que d'équiper ses forces armées. Alors, 9 chars qui seraient arrivés à Lubumbashi auraient provoqué de l'émoi. Je dis bien auraient, parce que nous avons des sources à Lubumbashi. Il n'y a pas d'émotion. Il y a de la fierté dans le chef de tous les vrais Congolais qui savent qu'ils ont besoin d'une armée forte. Il ne s'agit d'intimider personne. Pourquoi on intimiderait les gens? Pour quelles raisons?
C'était là Lambert Mende, porte-parole du gouvernement central. Maître Timothée Mbouya, je rappelle que vous êtes coordonnateur des Justicia Asbel, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Lubumbashi. Qu'est-ce qui justifie votre inquiétude?
Alors, merci madame à vous-même et à la radio Okapi pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à notre population. Dans notre lettre ouverte adressée au ministre congolais chargé de la défense nationale, ancien combattant en réinsertion, nous avons voulu attirer son attention sur les faits, sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est que la population, comme vous l'avez souligné, a été surprise un jour, un vendredi, de voir que des armes étaient en train de... les armes sont arrivées dans la gare de la FNCC, contrairement d'ailleurs à ce que les ministres national ou les porte-parole du gouvernement venaient de dire. Les armes sont arrivées à la FNCC par la voie ferrée en provenance de Kananga et non par Kasumbalesa. C'est la première chose. Donc la population a constaté ces faits-là, que ces armes sont bel et bien arrivées. Peut-être pour votre information, les gens à Bukama, quand ils ont vu ces armes passer, ils ont pris fuite vers la forêt. Donc c'est pour dire que la psychose d'insécurité qui a été créée par ces armes-là est une psychose réelle. La deuxième chose, c'est le droit à l'information. Certes que l'armée et le gouvernement national ont le droit, le plein droit, de pouvoir réformer et renforcer les capacités de notre armée, mais la population a le droit à l'information, car le droit à l'information lui est garanti par l'article 24 de notre Constitution. Aucune autorité en province, aucune autorité au niveau national n'a daigné préalablement informer cette population d'une quelconque arrivée imminente de ces armes. Donc, le fait que les gens soient surpris par l'arrivée de ces armes, ils ont été très étonnés, très inquiet, et vous pouvez faire circuler votre micro dans la ville de Lubumbashi. Pendant ces 2, 3, 4 jours ou 5 jours, les gens restaient pour la plupart terrés chez eux à la maison et rentraient tout au plus tard à 18h à la maison parce que les gens se posaient la question de savoir ce qui adviendrait, ce qui arriverait par la suite. Et même, jusque pendant que nous sommes en train de parler, vous pouvez circuler à Lubumbashi. Dans les commerces qui fonctionnent la nuit, vous verrez que l'activité a sensiblement diminué par la présence, par la suite de la présence des civils. Nous voulons bien.
Maître Timothée, excusez-moi, est-ce que ces armes seront toujours visibles à travers la ville au moment où nous parlons?
Pour l'instant, ces armes sont entreposées dans un parking de la garde républicaine à Kimbembe. Pour l'instant, donc, ces armes sont entreposées là, mais il n'est pas rare, par contre, de voir des militaires lourdement armés sillonner certaines communes, notamment la commune Kenya, la commune Katuba, la commune Kamalondo, et même du côté de Luo aussi et Kawama. Donc, c'est ça la situation pendant que nous parlons. Donc, ces armes sont entreposées dans un parking de la garde républicaine appelé Kimbembe.
Alors vous Maître Timothée, s'il vous plaît, qu'aucune autorité n'a informé, n'a donné une explication par rapport à la présence de ces armes dans, dans l'ex-province du Katanga, mais du côté des FARDC. Le commandant, le commandant de la 22e région militaire a indiqué que cette présence des militaires était consécutive à la réforme de l'armée. Est-ce que ça n'a pas rassuré la population?
D'abord, la première chose, c'est que l'intervention du commandant de la 22e région militaire est intervenue très tardivement, après que la population soit terriblement paniquée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous voulons bien, nous ne sommes pas contre la réforme de l'armée et le renforcement des capacités de notre armée. Nous ne sommes pas contre. Ce que nous demandons, par contre, c'est que, de prime abord, que l'information puisse circuler avant ou même pendant que ces armes sont en train de circuler, que l'information, la bonne information soit donnée à la population. La deuxième chose, nous sommes pendant une période préélectorale ou même électorale. Nous le savons tous, c'est une période chaude, c'est une période de laquelle découlent parfois des problèmes, des troubles à l'ordre public, ainsi de suite. Nous aurions souhaité que la police plutôt, la police parce que maintenant, c'est le moment où la police doit jouer un grand rôle, nous aurions aimé que la police soit plutôt renforcée en capacité. Parce que vous savez que notre police ne dispose que des armes non létales, je veux dire. La police ne dispose que des armes non létales et donc, chaque fois qu'elle est appelée à maintenir une manifestation publique, à contenir une manifestation publique, la police ne fait recours qu'à des armes qui tuent ou à des armes qui font mal. Pendant ce temps ici, il aurait été plus logique de renforcer les capacités de notre armée que de renforcer les capacités de la police. Et même parlant du renforcement des capacités de l'armée, comment peut-on expliquer, comment peut-on concevoir que ces armes qui sont, qui devraient être mises à la disposition de la 22e région militaire, soient plutôt confiées à la garde républicaine ou entreposées dans un parking de la garde républicaine.
Merci,
alors,
maître.
Pour répondre à votre préoccupation, madame,
oui,
je voudrais vous dire que nous avons adressé une lettre, une autre correspondance à l'autorité locale, lui faisant part des cas d'insécurité qui nous sont rapportés dans certaines parties de nos communes et des alentours de la ville de Lubumbashi. Jusqu'à ce jour, la date de la lettre, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu une quelconque réponse de l'autorité, parce que nous avons demandé
merci,
à l'autorité de mener des investigations
maître
et de déférer ou de faire déférer devant les instances judiciaires
maître
le militaire qui...
Maître Timothée, merci. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Général Jean-Claude Kifoua, vous êtes commandant de la 2e zone de défense qui regroupe la 21e et la 22e région militaire. Comment vous analysez cette inquiétude ou quel est que vous faites de cette inquiétude soulevée par les ONG de défense des droits de l'homme Bazal Lumumbashi?
Merci beaucoup, madame, pour la pertinence de la question. Par élégance, je commencerai d'abord à saluer Maître Timothée Mbouya. Je vois que son inquiétude n'est pas fondée et il y a de l'amalgame fait dans ce qu'il vient de déclarer. D'abord, je constate qu'il y a une confusion entre les problèmes relevant de la sécurité publique et de la défense nationale. Ça, il faut faire la part des choses. Maintenant, par rapport à la réforme, nous avons un sous-bâtiment juridique sur lequel repose la réforme. Notamment, la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées. La loi numéro 12/001 du 27 juin 2012 portant statut de service des forces armées. Donc, s'il y a des lois, c'est le législateur congolais qui a porté ces lois au niveau du Parlement, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée et du Sénat. Le Conseil constitutionnel a statué. Le président de la République a promulgué ces lois. Maintenant, nous nous sommes fixés des objectifs dans cette politique de la réforme de la sécurité. Il ne concerne pas seulement l'armée, mais aussi la police et la justice militaire. Ce qu'il faut comprendre par là, il faut d'abord faire un recul, faire une analyse rétrospective des armées qui ont existé jusqu'aujourd'hui dans notre pays.
Général,
en tant que l'État indépendant du Congo.
Général,
on a fait la
Général, oui. Jean-Claude Kifoua, il y a un problème qui est bien précis, qui a été soulevé par ces ONG. La population était surprise de voir ces armes arriver dans l'ex-province du Katanga. Aucune information n'a circulé et ça a créé la psychose au sein de la population.
Madame, cela n'est pas vrai. Moi-même, je suis à Lubumbashi. On a de quelle population les individus peuvent se mettre toujours à prétendre être les porte-parole. C'est pas vrai. D'ailleurs, la population nous félicite l'armée, parce qu'avant, on parlait du triangle de la mort. On parlait de Maïmaï dans la ville de Lubumbashi. On parlait de tous les morts dans cette ancienne province du Katanga. À la demande du nouveau commandement, on a mis fin à toutes ces pratiques d'État, là de la sécurité. Dans le cadre de la réforme, nous avons une loi de programmation militaire, c'est au niveau du Parlement. Là, un budget qui est consacré pour équiper notre armée. Maintenant, nous sommes dans la phase de la montée en puissance, dans la deuxième phase, parce qu'avant, il fallait d'abord constituer des unités de couverture. La première étape. On est passé à la deuxième étape qui est la formation des forces de réaction rapide. Maintenant, nous tendons aussi vers la troisième phase parce que c'est un processus qui va jusqu'en 2024-25 pour atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Tout est une base de loi. Maintenant, il faut comprendre aussi, il y a certaines informations qui relèvent du caractère secret de la réforme. Mais lorsqu'on parle de l'inquiétude, il n'y a pas d'inquiétude ici, il n'y a pas des gens qui ont fui, les activités se passent normalement dans la ville de Lubumbashi.
Donc vous nous dites, général, que ça n'a pas créé la psychose
dans
la population.
Que... Pardon?
Donc vous dites que ça n'a pas créé la psychose au sein de la population, au contraire, la population vous a félicité.
Si vous prenez le micro à la terre, vous verrez qu'il y a quand même, ce n'est pas vrai ce qui est dit. Par contre, nous, la situation s'est beaucoup améliorée. Mais, laissez-moi parler d'abord de la réforme. Vous allez intervenir. Parce qu'il faut faire comprendre aux gens.
Ça risque de nous prendre.
Mais pourquoi nous faisons cette réforme? Le but de la réforme, c'est quoi? D'abord, c'est d'avoir une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée moderne, crédible, devant la population, le gouvernement et même au niveau international. Nous devons avoir une armée dissuasive, une armée crainte par l'ennemi, mais sans menace aux autres. Maintenant, dans cette politique de la réforme, nous avons des secteurs directeurs que nous sommes fixés. D'abord, il y a le rajeunissement de l'armée, c'est-à-dire la planification de la mise en retraite des militaires ayant atteint la limite d'âge. Le recrutement de nouveaux éléments appelés à faire la jeunesse. La formation et l'entraînement des militaires. La dotation en équipement adéquat.
Merci, général.
La prise oui.
On risque de faire toute une émission sur ça, mais général, qu'il faut donc ce déploiement de tous ces matériels dans la province, c'était pour montrer à la population que les FRDC se sont dotés des équipements, des armes, des chars, des combats.
Laissez-moi le temps de vous donner une explication plus cohérente.
Résumez-vous,
j'ai dit. On a créé des zones de défense. Le matériel, ce n'est pas seulement ici à Lubumbashi. À Kinshasa, il y a du matériel militaire. À Kisangani, moi, j'ai fait commandant région à Kisangani. Pendant 7 ans, il y a du matériel militaire. Pourquoi là-bas, il n'y a pas de bruit seulement ici?
Merci, général. Je veux vous redonner la parole tout à l'heure, général Kifoua. Emmanuel Kabengele, vous êtes coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur des sécurités. Est-ce que l'inquiétude de ces ONG est-elle justifiée?
Mais
lorsqu'on suit le général Kifoua et même Maître Timothée Mbouya.
Sincèrement, lorsque vous suivez les deux et que vous suivez également le collègue Maître Timothée que j'ai salué, et que les généraux également que j'ai salué, sincèrement, l'inquiétude est justifiée. Et lorsqu'on fait l'armée, lorsqu'on fait la réforme de l'armée, on ne fait pas la réforme de l'armée pour susciter des inquiétudes. On fait la réforme de l'armée pour apaiser davantage ces inquiétudes. Et je voudrais, tout en remerciant le général qui nous a, d'une certaine manière, brossé presque le but de la réforme de l'armée, essayer de faire une petite précision en disant que la loi de programmation militaire n'est pas encore adoptée ou n'a pas encore été promulguée. Et dans le calendrier actuel du Parlement, elle n'est même pas soumise à discussion. Donc je suppose que le projet de loi reste encore au niveau de l'instance gouvernement et on espère que dans l'urgence, cet avant-projet de loi pourrait connaître une relecture du Parlement pour adoption et puis finalement pour promulgation par le chef de l'État. C'est dire qu'il y a encore suffisamment à faire au niveau de la réforme et même au niveau du complément du cadre légal qui peut faire en sorte qui peut être considéré comme jalon de réforme. Vous savez, lorsqu'on parle pratiquement de réforme, parce que le général y est longuement revenu, je voudrais juste un peu spécifier le fait que l'on arrive à parler de réforme. On arrive généralement à parler de réforme lorsqu'on a affaire à une situation de méfiance et que l'on voudrait arriver à une situation de confiance. Qu'est-ce que ça voudrait dire? On a deux services de sécurité dont on se méfie et qu'il faudrait arriver à faire en sorte que ces services de sécurité soient des services de sécurité dont la population a confiance. Et c'est même pour cela qu'on fait de la réforme et dans certains jargons, on ajoute même un qualificatif à la réforme. On parle de la réforme transformationnelle du secteur de sécurité. Donc, lorsque nous faisons la réforme, c'est pour susciter l'adhésion collective, c'est pour susciter davantage la confiance et lorsqu'on suscite plus d'inquiétude que le niveau de confiance, il y a d'une certaine manière, matière à recadrage un peu au niveau de la réforme. Je comprends qu'il se pose un problème sérieux de communication parce que, au moins d'une certaine manière, le droit à l'information, c'est un droit fondamental et que, en tant que citoyen, en tant que population, nous en avons droit. Et dans ce déficit d'information, ça crée de l'émoi. Vous savez que lorsque vous avez déjà été mordu par un serpent, vous commencez à craindre même le lézard. Donc la population est déjà assistée antérieurement à des déchards de Goma. Là, je parle plus du cas de la ville de Kinshasa où en 2006, on a connu presque une situation où les chars de combat se sont transformés en organes de... En tout cas, on a vu qu'on était dans une sorte d'état de guerre sur la ville. Et déjà, cette psychose, sincèrement, ça suscite plus d'inquiétude que d'accalmie. Et le travail d'information, du service d'information, c'est pour donner l'information qu'il faut. Et vous savez, pour notre armée, et ça, nous saluons le fait déjà qu'il y a un renfort en termes d'équipement, parce que lorsque vous lisez le plan ou les informations sur la réforme de l'armée, on vous dit que la réforme de l'armée congolaise est basée sur trois points fondamentaux que l'on appelle une trilogie. Formation, équipement, casernement. Et lors du séminaire d'évaluation à mi-parcours de la réforme de l'armée, les participants avaient ajouté également aussi un autre point fondamental, la santé. Donc au lieu que ça soit une trilogie, les participants avaient proposé que ça soit une sorte de quadrilogie. Donc formation, équipement, casernement et le problème de santé. On salue le fait qu'il y ait ce renfort en termes d'équipement, mais au-delà de ces renforts en termes d'équipement, on doit davantage investir dans les ressources humaines, dans la formation, pour que la personne à même d'utiliser cet équipement l'utilise de manière suffisamment professionnelle, qu'elle s'y prenne de manière suffisamment professionnelle pour que l'équipement que l'on vante tant ne soit pas l'équipement du genre qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine qui suscite davantage pratiquement d'inquiétude.
Alors il y a Stéphane de Lubumbashi qui demande, est-il normal qu'une armée souveraine puisse se justifier lorsqu'elle s'approvisionne en armement?
Je peux simplement vous lire le premier alinéa de l'article 5, il y a le général qui a fait allusion à la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées. Le premier alinéa de l'article 5 de cette loi dit « Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et le frontière. » Et lorsque, en pleine ville, les gens se rendent compte qu'il y a l'armement qui est de plus en plus visible. Les gens se rendent compte que c'est plus vraiment l'armement de police, c'est l'armement pratiquement de militaires. Les gens ont intérêt à se poser des questions parce que, d'une certaine manière, c'est pas une armée pour le ciel, c'est une armée pour la population. Et effectivement, les amis ont raison de se poser des questions et c'est le travail d'information qui pourrait apaiser ces inquiétudes.
Merci, Monsieur Kabengele. Maître Timothée Mbouya, on va prendre pour vous cette ONG qui nous vient de Dilolo dans la province du Lualaba.
Jacques Capin depuis Dilolo dans la province du Lualaba. La présence de ces militaires dans les chefs-lieux des quatre provinces issues du démembrement de l'ancien Katanga ne peut nullement inquiéter ces ONG dans la mesure où certains opérateurs politiques qui, par le passé, ont géré le Katanga et qui malheureusement se sentent effondrés politiquement suite au découpage territorial ont tendance de réserver aux populations concernées un avenir incertain en prétendant vouloir obtenir ce qu'ils appellent respect de la Constitution alors qu'ils sont les premiers à défier les décisions de la République pour avoir mis en place les 21 nouvelles provinces. Mais dit-on pas, gouverner c'est prévoir.
Voilà, je voulais parler des questions hein, au lieu d'ONG. Notre Timothée Mbouya, comment vous répondez à ce point de vue de Jacques Capin depuis Dilolo?
Je voudrais simplement considérer la réaction, je ne voudrais pas considérer la réaction de M. Jacques Capin comme une réaction politique, parce que nous savons que l'armée est apolitique, elle est républicaine. Donc M. Jacques Capin m'amène plutôt sur un terrain politique, alors que la réalité sur terrain et les faits que nous avons dénoncés, c'est le fait que des armes de guerre puissent circuler une ville qui n'est pas officiellement en guerre et qu'il n'y ait pas d'information demandant à la population de rester calme et que cela s'est passé dans le cadre normal du renforcement des capacités, n'est-ce pas, de l'armée. Je salue aussi en passant le général ainsi que Maître Emmanuel Kabengele, mais je renforce le point de vue selon lequel, et le général et moi-même, nous sommes ici à Lubumbashi, peut-être que lui se sent en sécurité parce qu'il est militaire, mais moi qui suis civil, je vis avec d'autres personnes à la cité, je vis avec des Congolais à la cité, à la vue de ces armes, nous avons été très sérieusement terrorisés jusqu'à l'heure actuelle. Madame, quand vous venez à Lubumbashi, quand vous sillonnez dans les rues et les avenues de Lubumbashi, vous allez vous rendre compte de la véracité des faits que j'avance ici. Nous ne sommes pas contre la réforme de l'armée. Nous ne sommes pas contre le renforcement des capacités, mais nous sommes contre le fait de considérer que l'armée, c'est une affaire du ciel, c'est une affaire de quelques initiés ou de quelques personnes, et que l'information ne revient pas à la population. Nous avons le droit de réclamer que l'on nous donne des informations en temps réel sur ce qui se passe, parce que ça nous concerne.
Cette
armée-là, ainsi que les armes que le gouvernement a achetées, c'est des armes pour nous sécuriser, nous, et non pour sécuriser les militaires seulement ou les politiciens. C'est pour sécuriser la population et c'est bien.
Maître Timothée,
je pense que nous avons le droit d'exiger que des informations nous soient données.
Alors, Maître Timothée, on a suivi le général Kifa tout à l'heure qui a dit qu'il y a des choses qui relèvent du secret militaire et qu'on ne doit pas tout dire à la population. Est-ce qu'il n'a pas raison dans un certain cas?
Oui, mais c'est ce que nous nous disons. Ce que nous nous demandons, c'est d'informer simplement la population. J'ai même dit qu'on pouvait simplement dire que dans le jour à venir, vous allez voir que des armes vont arriver. Parce que, madame, ces armes, quand elles sont parties de Kananga, les gens à Kananga les savaient. Elles ont fait le trajet sur la voie ferrée jusqu'à Lubumbashi. Je vous ai dit que nous avons reçu des appels. Les gens à Bukama
sont allés se réfugier dans la brousse. Donc, tout ce que nous demandons, tout ce que la population demande pour la rassurer, c'est qu'on lui dise qu'il va se passer ceci, il va se passer cela. Ce que je dis n'est pas une invention. Ici, à Lubumbashi même, nous vivons à côté des sites miniers. Parfois, dans les sites miniers, il y a des explosions. Mais avant ces explosions, quelques jours avant ces explosions, les personnels de ces entreprises minières se donnent la peine d'informer la population à travers la radio, la télévision ou même les mégaphones. On passe dans les rues et les avenues pour dire aux gens, soyez tranquilles, quand vous allez entendre des explosions, il n'y a rien, ça se passe dans telle mine. Et les gens restent calmes. Mais quand vous vous réveillez un matin, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des chars dans la ville. Mais madame, même si on dit qu'à Lubumbashi, il y a eu des maïmaï, mais à Lubumbashi, on n'a jamais connu des chars de combat ou des chars d'assaut, on n'en a jamais connu.
Quand deux ou trois
seulement sortent dans la rue, ne vous en faites pas, hein, c'est une sérieuse panique. Venez à Lubumbashi, comme je vous ai dit, ou bien renseignez-vous auprès de vos sources. Demandez aux gens si à 22h, 23h ou même minuit, les gens se promènent encore comme auparavant. Et vous saurez ce que la présence de ces armes ont causé comme traumatisme psychologique.
Alors,
nous avons
dit
dans cette lettre qu'il faut prendre toutes les précautions pour éviter que les quelques investisseurs qui sont venus chez nous parce que nous sommes en train de restaurer non seulement l'intégrité du territoire, mais aussi la paix en train de revenir. Ces quelques investisseurs, nous risquons de les perdre.
Merci,
parce que nous ne savons pas gérer
l'information. Merci, maître Timothée Mbouya. Général Kifoua, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Kindu au Maniema.
Kilikumbi le Sumba Sumba Isaac depuis Kindu dans la province du Maniema. Il vient de réformer l'armée car il faut doter au pays une armée forte et dissuasive. Mais réforme n'est pas synonyme de la surmilitarisation d'une région. Cette inquiétude est fondée dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, Lubumbashi ne présente pas une zone rouge par rapport au nord et sud Kivu. Le gouvernement devrait plutôt prioriser le nord et sud Kivu où nos compatriotes sont tués du jour au jour. Agir dans le contraire serait alors une façon de se moquer de la population. Il est facile de lire les signes du moment et le gouvernement n'a qu'à nous dire s'il y a une menace sécuritaire qui pèse sur Lubumbashi à ce temps. Je pense qu'il faut plutôt chercher à préserver la petite paix qui règne du côté de Lubumbashi. Et la paix n'est pas à rechercher avec des chars, car il faut lutter pour la paix en utilisant les instruments de paix, disait Martin Luther King.
Général Kifoua, comment vous répondez à cette préoccupation de cet auditeur?
Merci, madame. Je commencerai d'abord à protester. Bon, la façon dont vous gérez la police de débat. Lorsque je parle, vous m'interrompez. Et à mes interlocuteurs, vous ne me laissez le temps d'expliquer. Moi, j'avais des explications claires et précises.
Vous avez la parole.
Je n'arrive même pas à bien développer les films quand même de ma pensée.
Vous avez la parole, Général Kifoua.
Ok. Je commencerai d'abord par saluer aussi Maître Kabengele, que je n'ai pas salué parce que je n'avais pas le nom, et dire que moi j'ai parlé de deux lois. La loi numéro 11 et la loi numéro 11 et numéro 12. Maintenant, la loi sur la programmation militaire, ce n'est pas dit que c'est déjà adopté par les chefs de l'État. Je vais mettre seulement de deux lois. Maintenant, par rapport à ce que l'auditeur vient de poser comme question, c'est ce que je disais. On a fait une répartition géographique des entités militaires, c'est-à-dire en créant trois zones de défense. Il y a la première zone de défense, c'est la partie ouest de notre pays, si vous voulez, la ville-province de Kinshasa, le Congo central, les Kwilu, Kwango, Maïndombe, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, la Mongana, la Choapa et l'Équateur. Ça, c'est la première zone de défense. La deuxième zone de défense, c'est zone de sud, c'est-à-dire la province du Kasaï, Kasaï central, Sankuru, la province du Kasaï oriental, la province de la Lomané, le Tanganyika, l'Ouanaba, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. Vous voyez déjà, il y a une partition géographique des entités. Chaque zone de défense s'occupe d'une partie du pays dans le cadre des mises en œuvre, c'est-à-dire dans des opérations. Mais comment voulez-vous que tous nous quittions là où nous sommes pour aller seulement s'installer dans un endroit? Moi, j'étais en province orientale, je vous ai dit que je ne sais pas. Cette réforme concerne toutes les zones de défense, c'est l'ensemble de l'armée. Et partout, on est en train de renforcer les moyens aériens, terrestres, lacustres, pour faire face aux différentes menaces. On parlait de Garnier, Lubumbashi, il y en a fait. Avant mon arrivée, on parlait des triangles de la mort. On parlait de Nakapagapanga partout. Si on n'en parle pas, parce qu'il y a un effort qui a été fourni à l'endroit des actes de cette politique de la réforme initiée par notre hiérarchie.
Alors, Général Kifoué, c'est vrai que vous dites que ça se fait dans toutes les zones de défense, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit pour dire qu'on devrait beaucoup plus renforcer le Nord et le Sud Kivu, où il y a des problèmes sérieux d'insécurité avec les groupes armés qui pilulent ça et là, au lieu de commencer par Lubumbashi, par le Katanga.
La cantine vient vers toi. Moi, j'étais à Kisangani à l'époque. La réunion opérationnelle préparative était faite à Kisangani. Et à partir de Kisangani, tout a été planifié. Il y a eu des succès dans ces opérations-là. Et ils ont mis du matériel, qu'il soit des véhicules blindés ou des chars. Mais les gens veulent, il y a quand même, regardez, je vais vous donner un exemple de très simple. En Belgique, est-ce que les gens n'ont pas vu des véhicules blindés en pleine Bruxelles? Est-ce qu'ils se sont inquiétés? C'est pour dire partout, à Bruxelles, il y a jamais eu de guerre. Nous sommes déjà un ennemi dans une guerre asymétrique. La guérilla, ce n'est pas une guerre classique. Il y a des techniques appropriées. Et nous nous préparons pour répondre à toutes ces menaces. Mais ne serait-ce pas de nous distraire.
Mais général, vous ne comprenez pas? Vous ne pensez pas qu'il y a eu quand même un problème de communication si les autorités locales avaient communiqué par rapport à l'arrivée de ces matériels ou de ces militaires, peut-être que les ONG n'allaient pas s'inquiéter ou la population n'allait pas s'inquiéter.
Madame, je n'ai jamais vu dans le cadre de la stratégie de la défense. Lorsque les pays qui sont aujourd'hui des puissances nucléaires, est-ce qu'ils annoncent à la population aujourd'hui nous allons prendre de l'uranium pour faire ceci et avoir une bombe atomique? Ça se fait où? Il y a des caractères secrets, il y a certaines informations que nous pouvons livrer superficiellement, il y a d'autres que nous gardons comme secret de défense. Il y a des êtres ici parmi nous, des Congolais, qui trahissent leur pays en corrigeant avec les étrangers, ça vous le savez. On va donner ce genre d'informations à ce genre de personnes. Vous croyez que c'est normal?
Merci, Général Jean-Claude Kifoué, Emmanuel Kabenguéné. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, dans la province du Nord Kivu.
Evariste Yendopin Saloum, ville de Goma, province du Nord Kivu. La militarisation et la multiplicité des armes lourdes au Katanga doivent étonner tout le monde. Car présentement, il n'y a pas la guerre dans cette province. Tous ces militaires et toutes ces armes devraient être déployés au Nord Kivu, et plus particulièrement à Beni, afin de mettre fin non seulement aux groupes armés étrangers, mais aussi aux locaux qui ferment la désolation sur toute la province du Nord Kivu.
Réaction, Emmanuel.
Oui, je crois qu'il rejoint.
La réaction de.
Celui de Maniema. La réforme n'est pas synonyme de surmilitarisation. J'ai beaucoup apprécié sa phrase et il dit qu'on ne peut pas trop rechercher la paix avec les chars. Bon, tout en lui donnant raison, je voudrais un peu revenir sur ce que venait de dire le général sur le secret défense. Bon, dans l'approche réformiste, on pense qu'il faudrait que dans un proche futur au niveau de l'organe délibérant, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, qu'on adopte une loi nous interprétant le mot secret défense. Qu'est-ce qui est secret défense et qu'est-ce qui ne l'est pas? Avertir aux gens, donner une communication aux gens de ne pas paniquer parce qu'il y a l'équipement militaire qui va passer. Et je crois que là, ça, ce n'est pas du secret défense. Ce n'est pas un plan d'attaque que l'on vient donner. mais on essaie simplement d'avertir pour qu'il n'y ait pas trop de panique, parce qu'il y en a qui peuvent juste en voyant et puis piquer de crise, il y en a. Donc on essaye d'une certaine manière de créer un climat calme dans un climat qui est très, très tendu. Je me dis qu'il y a vraiment nécessité qu'au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, que l'on puisse nous pondre une loi nous interprétant le mot secret défense, parce que on a presque tendance à voir le secret défense en tout. Même lorsque on discute juste d'un plan d'action d'activité, certains ont tendance à considérer que c'est du secret défense. Je voulais juste un peu, par rapport au mot secret défense, demander que le législateur puisse nous éclairer sur ce qui est des secrets défense et ce qui n'est pas secret défense.
Alors, par rapport à tous ces auditeurs qui pensent qu'on devrait beaucoup plus privilégier le Nord et le Sud qui vont au lieu d'envoyer tous ces matériels, tous ces militaires armés au Katanga.
En tout cas, ils ont entièrement raison, parce que vous savez que le problème...
Et on sait que dans certaines localités, il y a des FRDC qui se retirent, qui quittent à cause de l'insécurité.
À cause de l'insécurité, à cause de sous-équipement. Bon, parce que vous savez qu'il y a des problèmes d'équipement qui se posent et qu'ils quittent. Et lorsque on envoie l'équipement dans une zone et que on essaye de ne pas trop ravitailler la zone où le problème d'équipement se pose, je me dis que là, il y a matière à rééquilibrage. Il y a matière à rééquilibrage parce qu'il y a nécessité, surtout du côté où il y a les groupes armés, qu'il y ait un équipement qui fait voir la force de FARDC, qui fait voir également la force, cette force dissuasive à travers l'équipement. Vous savez, lorsqu'il y avait le défilé militaire lors de l'anniversaire de l'indépendance, on avait beaucoup salué l'équipement de FARDC, et nous, on s'est dit, avec cet équipement, si on l'utilise à bon escient, si au niveau du front, on a tout cet équipement, je crois que ces groupes armés dont on parle pourraient ne plus exister.
Alors, Emmanuel Kabengele, je vous demande aussi de conclure, parce que nous tendons à la fin de notre émission, à la longue, pour éviter que les gens s'inquiètent, que ça crée la psychose entre
sein
de la population.
Ma conclusion, je voudrais simplement qu'on ne réduise pas la réforme au problème d'équipement. Je voudrais également faire voir que la réforme, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie de militaires. Et qu'on soit beaucoup plus regardant par rapport à cet aspect. Le général a parlé de la loi également sur le statut du militaire. Et dans cette loi, il y a des indicateurs légaux d'amélioration des conditions de vie de militaire. Mais je dois vous avouer que cette loi souffre encore de sa non-effectivité, de sa non-application. Je crois qu'on ferait œuvre utile également en s'attaquant dans un des piliers de réforme qui est celui de l'amélioration, la mise en conditionnement de ces militaires.
Merci Emmanuel Kabengele. Maître Timothée Mbouya, votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de notre émission. On a suivi le général, il n'y a pas à s'inquiéter, la population n'a pas à s'inquiéter. Tout ça, ça entre dans le cadre de la réforme de l'armée. On ne doit pas tout dire de ce qui concerne l'armée. Il y a des secrets qu'on doit garder. Et qu'est-ce que vous en pensez?
C'est des termes qui ne devraient pas normalement nous effrayer davantage. Secret de la défense, stratégie de la défense. Nous, ce que nous demandons, est-ce que la population demande, c'est simplement une bonne circulation de l'information. Je voudrais aussi rappeler au général que parlant de la réforme de l'armée, il y a, comme on l'a rappelé ici, la formation, l'équipement et les casernements. Je voudrais que le général nous dise les mesures que lui compte prendre pour que nous ne voyons pas davantage des militaires sur la ville. Parce que quand vous sillonnez dans la ville de Lubumbashi, il n'est pas rare de constater que des militaires circulent dans des jeeps, tout ça, comme s'ils allaient dans des opérations. Nous voulons que le général prenne effectivement des mesures pour que les militaires soient casernés.
Merci.
L'autre chose et la dernière chose, je voudrais dire que nous allons continuer à faire notre travail en tant que citoyen, en tant qu'organisation citoyenne.
Merci, maître.
Et nous rappellerons à l'armée son devoir chaque fois qu'il l'échec.
Merci, maître Mbouya. Général Jean-Claude Kifoua, votre conclusion.
Merci beaucoup, madame. Il ne faut pas lier la réforme à des personnes, mais plutôt aux institutions. C'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, lorsque M. Mbouya parle de la population, ce n'est pas la population, c'est lui qui a besoin des informations. Qu'il vienne nous voir, on pourra lui dire ce qu'il peut se dire, mais tout ce qui est secret, on le garde comme secret défense. Il n'est pas le porte-parole de la population d'abord. La population doit apaiser ses esprits. L'armée est là au service de la nation pour sa protection.
Merci, Général Jean-Claude Kifoua. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.